Et j'en viens à mon propos autour de ce bouquin que j'ai publié l'an dernier sur les métamorphoses du politique en Occident et intitulé le livre « Le temps de l'État-entreprise ». Alors, la problématique, la question que je me suis posée, c'est au-delà de ce qui est visible sur la scène du politique. Bien sûr, tout le monde, je dirais les politistes en particulier, constatent une crise de la représentation avec de multiples indices. Mais je voulais aller au-delà de cette sorte d'ancienne qui est répétée, évidemment, de la crise de la représentation politique. Et d'où la nécessité de faire y compris un travail de mise en perspective historique ou plutôt généalogique, dans la mesure où, et c'est pour ça que tu l'as évoqué, la réforme grégorienne qui semble un vieux truc, 12e siècle, en fait fondatrice pour l'Occident. Je vous en dirai un mot, si vous avez complètement oublié ce que c'est. Donc il faut passer par la généalogie, c'est-à-dire la géologie. L'histoire, ce n'est pas une chronologie, la chronologie peut aider, ce n'est pas la flèche du temps orientée, encore moins aujourd'hui par cette idée de progrès. Mais ce sont beaucoup plus des strates et des couches sédimentées. Et donc, ce qui est le plus profond peut devenir l'actualité la plus chaude. On peut prendre l'image du volcan. La lave qui est tout à fait au fond, qu'on croit oubliée, en fait, devient effectivement l'actualité brûlante. Et c'est pour ça qu'il faut passer par la géologie et par la généalogie des concepts et des idées pour essayer de comprendre un peu ou d'éclairer un petit peu modestement ce qui advient aujourd'hui. Alors, ma question, c'est pas la fin du politique ou des blagues comme ça, la fin de l'État, la fin de l'histoire, la fin de tout. Je suis pas dans les postes, ni dans les postes, comme mon ami Maffezoli, là, poste moderne, poste tout ce qu'on veut, poste politique, ni dans la fin de l'État ou la fin du politique, mais beaucoup plus dans la métamorphose du politique et de la représentation. Alors, la question, c'est d'inscrire la politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement la politique, disons, de tous les jours, dans le politique, et donc de traiter de ce qu'est le politique pour comprendre la politique. La politique, si vous voulez, ce n'est qu'un trou à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le politique. Alors, je m'appuie sur un très beau livre et une citation que vous avez sous les yeux de Louis Marin, dans un bouquin notamment politique de la représentation, et c'est ce qui va guider mon plan, si vous voulez. Il est de l'essence du pouvoir politique de se représenter. La représentation est la théâtralité du pouvoir, où il s'institue, et le pouvoir est la théâtralité de la représentation, où il se constitue. Autrement dit, on ne peut pas dissocier le politique de la représentation. C'est pour ça qu'il a tant à faire avec le théâtre, d'ailleurs, et que le théâtre a tant à faire avec le ou la politique. Donc je vais m'appuyer sur ce lien consubstantiel entre le politique et la représentation pour essayer d'explorer le fait que de nouvelles figures du politique viennent au premier plan sur la scène. Donc je vous propose quatre niveaux d'interprétation. Le premier, qui est celui de la scène, celui qui fait l'objet des chaînes en continu avec les gens qui racontent toute la journée leur vision du politique et qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup de concepts pour le faire. Mais peu importe, c'est pour ça qu'ils sont invités massivement sur les plateaux. Et donc la scène, et puis on va aller dans les coulisses. C'est ça la généalogie ou la géologie. On va aller dans les coulisses de ce théâtre avec trois niveaux d'approfondissement. Le premier, c'est celui qui interroge la représentation politique, l'ordre de la représentation. Qu'est-ce que c'est que la représentation? Y a-t-il une crise de la représentation politique? Le deuxième décor qui nous renvoie plus au fond, c'est l'analyse institutionnelle. Et notamment la question du devenir de l'État, puisque les figures politiques sont associées bien sûr à chaque État national, et donc le devenir de l'État et la métamorphose de l'État est un élément très important. Et donc l'hypothèse que je vous soumets, c'est que dans la phase actuelle, nous sommes dans ce que j'ai appelé un État-entreprise, un État-entreprise, donc une forme d'hybridation de l'État avec le monde de la grande entreprise. Et puis, si on va plus loin dans ce qu'au théâtre on appelle le lointain, troisième coulisse, si vous voulez, plus lointaine, il y a une vision du monde qui fait tenir l'architecture fiduciaire. Je vais vous expliquer ce que j'entends par structure fiduciaire de la société. C'est-à-dire que les institutions ne sont que comme des colonnes qui font tenir toute l'architecture, qui font tenir l'architecture d'une société. Et structure fiduciaire, c'est un terme que j'emprunte à Paul Valéry, qui a été repris et beaucoup développé par Pierre Legendre, qui est le fait qu'une société ne tient, en tant que communauté, que par les mythes ou les croyances, c'est-à-dire ce qui fait l'objet de foi. Fiduciaire, ça veut dire foi, de fides, c'est-à-dire ce qui fait qu'un troupeau de moutons, comme disait Platon, fait société. D'accord, c'est l'affectio societatis, mais plus fondamentalement, ce sont ces croyances collectives qui la font tenir comme communauté et qui fait que nous sommes en société. Et quand ces mythes ou ces croyances d'élite, ces mythes ou ces croyances, j'appellerais ça le symbolique, eh bien le lien social se défait et en général, ça finit dans la violence. Alors, voilà le plan de ma présentation et je commence par la scène. La scène, là où évoluent les figures contemporaines du politique, les figures que j'appelle celles de l'État d'entreprise. Alors j'ai pris trois exemples, mais on pourrait les multiplier. J'ai pris l'Italie. Évidemment, les pays sont différents, leur histoire, leur culture, etc. sont très différentes, je vais en dire un mot. Mais je cherche ce qui est invariant au-delà de ces différences, et y compris en tenant compte de cette diversité. Alors, le premier, c'est l'Italie. Pourquoi ? Parce que l'Italie est un véritable laboratoire politico-social au XXe siècle. Et je l'ai toujours considéré comme ça. C'est pour ça que j'avais beaucoup écrit sur Berlusconi à une époque. Et Silvio Berlusconi est un vrai innovateur du politique. Après Renzi et jusqu'à Salvini aujourd'hui, se sont beaucoup inspirés de ce qu'il a apporté. Et d'ailleurs, il est resté aux affaires pendant une vingtaine d'années. Aux États-Unis, plus proche de nous, Donald Trump, qui vient du monde des affaires, qui n'était pas, comme Berlusconi d'ailleurs, un homme politique, qui était un homme d'affaires, un homme d'entreprise, et qui sont entrés presque comme par effraction dans le champ politique et ont conquis immédiatement, dès le premier tour, si vous voulez, le pouvoir. Et puis le troisième cas, c'est Emmanuel Macron, qui ne vient pas de l'entreprise, quoique il a une expérience dans l'entreprise, notamment dans le milieu financier, mais qui, lui, production bien française, vient des grands corps de l'État, en particulier l'Inspection générale des finances, dans laquelle on passe son temps, si vous voulez, à circuler du privé au public. Et toutes les grandes figures, aussi bien du capitalisme d'État français, côté entreprise que côté sphère étatique, sont pour beaucoup issues de cette Inspection générale des finances. Alors, trois pays très différents. J'insiste quand même là-dessus. L'Italie, je l'appelle le laboratoire. Alors, c'est une nation sans État. J'insiste pas parce que j'aurai pas le temps, sinon, de vous parler de ce dont je veux vous parler. Évidemment, sur chacun des points, on pourrait faire un long exposé. C'est un pays qui est très décentralisé, mais qui est structuré sur les villes, sur les provinces, où l'esprit d'entreprise est extrêmement puissant, notamment la petite entreprise familiale, qui souvent est appelée d'ailleurs une multinationale de poche, dans la mesure où elle est très fortement exportatrice. C'est un régime parlementaire. Les élites sont liées, pour beaucoup, aux partis politiques et à la magistrature. C'est pour ça que, de temps en temps, les magistrats reviennent au pouvoir quand il y a des crises politiques en Italie. Et puis, il y a une présence très forte, comme vous savez, du Vatican. C'était, en gros, le pouvoir. On pourrait dire que le pouvoir culturel et symbolique en Italie, il est au Vatican, et que le pouvoir temporel, il est au Palazzo Chigi, où se tient le gouvernement. La France, à la différence de l'Italie, c'est une nation qui s'est construite avec et par l'État. Si on veut comprendre ce qui se passe en France, il faut jamais l'oublier. Il y a un lien historique de la constitution de la nation avec l'État. C'est un État unitaire, c'est un État qui a été très fort, qui l'est encore. Les élites sont beaucoup plus issues des grands corps d'État. On a une caractéristique en France depuis le XVIIIe siècle, c'est d'avoir créé des grandes écoles. On ne trouve pas ça dans les autres pays. Donc on a des grandes écoles à côté des universités. Depuis le XVIIIe siècle, au XVIIIe, c'était pour les ingénieurs. Et puis la Révolution française a créé Polytechnique, comme vous savez. Puis bon, après la 1945, l'ENA, mais enfin, il y a d'autres grandes écoles, les ponts et chaussées, etc. C'est un régime semi-présidentiel. Je parle de la Ve République. Et l'esprit d'entreprise, on peut dire qu'il s'est modifié dans les dernières décennies, mais si on a à peu près 4 millions d'entreprises en France, on a en gros 230 entreprises qui sont des grandes entreprises. Donc une des caractéristiques du monde de l'entreprise en France, c'est sa très forte concentration. Les États-Unis, je prends une caractéristique par Jeffrey Sachs, que je vous donnerai les références de son bouquin à la fin, parle de corporatocratie ou corporatocratie, c'est-à-dire pouvoir lié à la grande entreprise, à la corporate. Ça vient de corporation. Et donc, d'ailleurs, le droit des corporations est tout à fait important dans cette histoire de la grande firme. Alors, comme vous savez, c'est un État fédéral, surtout régalien, particulièrement militaire, un régime présidentiel, très décentralisé, la puissance des grandes entreprises et la fusion des élites. Là, ce n'est pas une originalité. Le lien entre le monde de la grande entreprise et le monde de l'État est assez fort. Mais c'est la première fois avec Trump que c'est un dirigeant d'entreprise immobilière, comme vous savez, qui devient président des États-Unis avec l'élection de 2016. Alors, je prends trois figures symboliques, comme je les appelle, BTM, Berlusconi, Trump, Macron. Quels sont les éléments communs ? Ce sont des personnages inattendus, c'est-à-dire qu'ils gagnent les élections au premier coup. Ils se présentent et ils gagnent, alors que dans le champ politique, ils n'existaient pratiquement pas, ou très peu. Ils se présentent immédiatement comme nouveaux, c'est lié évidemment au phénomène précédent. Néolibéraux, ils sont tous anti-politique, nouveau monde. Et je vais insister sur anti-politique, c'est-à-dire qu'ils se présentent immédiatement comme anti-politique dans le champ politique, avec un argument très fort qui est de dire, puisque nous avons réussi dans les affaires, notamment pour Berlusconi ou Trump, c'est le gage de notre capacité à agir efficacement, ce qui est le terme clé aussi de Emmanuel Macron dans toute sa campagne et dans tous ses discours. On peut agir avec humanité, il a encore dit avant-hier, mais avec efficacité. Donc le cœur du discours est l'efficacité dans l'action. Évidemment, par différence au monde politique classique, qui ne serait que dans le discours, et donc inefficace dans l'action. Ils créent tous les trois leur propre parti. Alors, pour Trump, c'est différent, bien sûr, comme vous savez, il est dans le parti des conservateurs, mais il est en marge, où il va se positionner en marge. Mais les deux autres, Berlusconi et Macron, sont très proches sur ce point-là, dans la mesure où ils créent leur propre parti et ils gagnent immédiatement les élections dans un laps de temps très court. Il y a une hyper-personnalisation, c'est-à-dire toujours une mise en scène du corps du chef. C'est très important, à la fois pour des phénomènes d'identification, mais pas que. Avec un récit de leur vie quotidienne, de leur vie personnelle, etc., et un suivi continu, je vais vous expliquer pourquoi, de cette vie quotidienne, sur le mode de la télé-réalité, en fait, qui inspire cette façon de faire le politique ou la politique. Ils importent massivement le management, c'est-à-dire la doctrine de l'entreprise et le récit de l'entreprise dans le champ politique. Ils manient, bon, ça c'est plus classique, surtout à Rouen, où c'est le Canuet qui avait introduit ça il y a fort longtemps dans les campagnes d'élections présidentielles. Ils manient massivement les technologies de communication, comme le marketing et le sondage, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Alors, ce sont des personnages évidemment très commentés puisqu'ils sont sous les feux de l'actualité, mais en même temps ils sont sous-analysés. C'est-à-dire que l'interprétation reste toujours en suspens face à ces personnages, justement parce qu'ils sont apparemment décalés. Alors Berlusconi s'est présenté d'entrée dès 1994 et il a été réélu trois fois et battu trois fois d'ailleurs. Hein, donc le lien aux médias n'est pas la cause explicative. Avec les mêmes médias, il a gagné et il a perdu trois fois. Donc il est resté, c'est celui qui est resté président du Conseil sur la plus longue durée depuis l'après-guerre en Italie. Et avec le thème central, ça veut dire un président ouvrier pour changer l'Italie ou un président entrepreneur. Je n'ai pas trouvé l'affiche, mais il a mené la plupart de ses campagnes autour de ce thème du président entrepreneur, donc de l'État-entreprise. Président entrepreneur, dans un contexte très particulier des années 90, je vous laisse lire les slides, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais venant à la fois de l'immobilier, comme va être Trump, chef d'entreprise dans l'immobilier, et de la télévision. Il est un maître, si je puis dire, de la télé-réalité. Et donc, Georges Balandi, un anthropologue, a parlé à propos des politiques contemporaines de personnages télé-réels. C'est-à-dire que le double corps du roi, comme disait Kantorowicz, ce n'est plus un corps symbolique et un corps physique, c'est un corps physique et un corps télévisuel, si vous voulez. Et donc, c'est un jeu permanent d'aller-retour entre l'image à la télévision, surtout à l'époque des chaînes continues, et le personnage physique, disons, sur le terrain. L'élément qu'a introduit le plus novateur de Berlusconi, c'est justement d'avoir introduit l'antipolitique en politique. En disant, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, peu importe les sources de sa fortune, j'ai gagné beaucoup d'argent, donc je ne vais pas faire de la politique pour gagner de l'argent, contrairement aux autres hommes politiques qui en font leur métier, etc. Donc ça, c'est un argument très fort, c'est l'anti-système dans le système. Ce que va reprendre Renzi et Salvini aujourd'hui, les personnages politiques qui gagnent sont tous anti-système aujourd'hui, quel que soit leur parcours. Juste un schéma pour vous expliquer le mode de fonctionnement de Berlusconi, c'est-à-dire comment il passe du monde des affaires au monde de la télévision et du monde de la télévision au monde politique. Dans le monde de la télévision, c'est ce qu'avait dit Patrick Lelay, là vous savez son théorème, il faut le cerveau disponible pour capter l'attention. Tous les médias fonctionnent à la captation de l'attention, hein, il faut bien avoir ça. Ça veut dire, par exemple, en France, la durée moyenne par individu passée chaque jour devant la télé, quel que soit le support, c'est 4h30 par jour et par individu. Ça veut dire qu'on passe dans sa vie plus de temps devant la télé et devant les écrans qu'en formation et au travail et même. C'est la principale activité, si vous voulez. Social, ça fait rêver quand même, hein. Ça questionne en tout cas. Oui, ça sert y compris à faire rêver. Mais ça veut dire qu'en gros, au 19e siècle, on vivait 400 000 heures, au 20e siècle, on vit 700 000 heures, et on a déjà rendu 100 000 à la télévision. Donc on est passé de la position allongée à la position assise pour un tiers du temps gagné grâce à la médecine et à l'hygiène. Alors, la télévision commerciale fonctionne sur le mode de la captation de l'attention, transformée en audience, et cette audience vendue aux annonceurs. Donc ça, c'est la sphère de ce que Umberto Eco a appelé la néo-télévision. Et ce mode de fonctionnement est transféré à l'identique dans le champ politique par Berlusconi sous la forme de la néo-télévision, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre les pâtes Barilla, eh bien on va vendre Forza Italia, une nouvelle idée de l'Italie, dont le personnage politique est l'incarnation. Donc son incarnation va se faire à la fois dans le personnage et dans un parti politique qu'il va créer de toutes pièces, mais qu'il va créer de toutes pièces à partir de sa régie publicitaire. Sa régie publicitaire qui vendait donc aux annonceurs des espaces publicitaires sur la télévision, du jour au lendemain, devient un parti politique qui s'appelle Forza Italia, la régie s'appelait Publi Italia, et cette régie, de Publi Italia, les directeurs commerciaux de son entreprise deviennent des candidats aux élections et sont élus et donc deviennent députés. Donc vous voyez, mettons le directeur commercial de l'entreprise X sur la région normande devient le lendemain député, voire ministre. Là, on a, si vous voulez, l'essence même du parti entreprise qui va devenir donc État-entreprise avec Berlusconi. Alors, vous voyez, Berlusconi, c'est connu, il a énormément joué de la mise en scène du corps du chef. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, Le corps du chef. Par exemple, l'exemple avec Trump est essentiel, parce qu'ils ont beaucoup joué, par exemple, sur leur calvitie ou sur leurs cheveux, parce que le roi David, évidemment, ou Samson et Dalila, c'est très important, la chevelure, dans la mythologie. Et donc, on se rappelle Berlusconi avec le bandana, Berlusconi se faisant refaire les cheveux pour se rajeunir, etc. Et là, vous avez une en bas, sur l'écran, une affiche. Il se fait appeler Trump, mais en réalité, c'est toujours lui, puisque Trump a fait la même chose avec ses cheveux pendant toute la campagne électorale, en disant « Moi, je vous prouve bien que je fais la vérité parce que je n'ai pas de perruque. Donc, tirez mes cheveux. » Donc, les gens allaient tirer les cheveux de Trump pour bien montrer que ce n'était pas une perruque. Donc, ça prouvait qu'il disait vrai. Et d'ailleurs, explicitement, l'équipe de campagne de Trump a dit que leur modèle, Bannon notamment, qui s'est installé en Italie depuis, a dit que le modèle était Berlusconi. Donc, Trump a été élu en 2016, comme vous savez. Je vais très vite, parcours de milliardaire. Mais avec des slogans qui n'étaient pas nouveaux pour les conservateurs, notamment, il en a beaucoup repris chez Reagan. Mais il a joué aussi des mêmes éléments de la mise en scène du corps, de l'hyperpersonnalisation, de l'antipolitique en politique, de l'antisystème. Mais la grosse différence, je dirais, c'est que il a joué sur le glissement de la marque. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui fait l'identité d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est sa marque. Et Trump est connu pour ses marques, Trump Tower, ça commence là, Trump Home, Trump Whisky, Trump tout ce que vous voulez, University, Trump Golf. Et donc, il suffisait, comme a fait Berlusconi, en passant, lui, du monde de la consommation, de la télévision à la politique, lui, il a fait glisser la marque. Donc, Trump Président, hein, de Trump Tower à Trump Whisky et Trump Golf. Donc, la marque, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui fait l'identité, c'est la symbolique, si vous voulez, de l'entreprise contemporaine. D'ailleurs, lui-même décrit son parcours dans un tweet célèbre. « J'ai été un homme d'affaires à grand succès, puis une super vedette de la télévision. » Donc, il ne se trompe pas sur sa propre analyse, si vous voulez. Et enfin, président des États-Unis. Donc, il le dit clairement. Immobilier, enfin affaires, télé-réalité et président. Et donc, je suis un génie. C'est exactement le même modèle que Berlusconi. Alors, j'insiste juste sur ce personnage télé-réel, parce que pour Berlusconi, c'est évident. Mais dans son émission « L'apprenti », pendant 12 ans, il a joué son propre rôle de patron d'entreprise. Et il avait fait monter le studio dans la Trump Tower. Et ça a été une émission qui a été très suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs américains, dans lequel il sélectionnait des candidats à l'embauche avec une phrase célèbre « Vous êtes viré, you are fired » au milieu. Et donc, tout son personnage, et si on veut comprendre Trump, parce que tous les diplomates, tout le monde veut chercher à comprendre Trump, ils auraient dû lire les bouquins. Il a publié, ça ne veut pas dire qu'il les a rédigés, mais il a publié une quarantaine de bouquins qui ont été des best-sellers aux États-Unis, notamment dans le domaine du management. Et il y en a un qui s'appelle « L'art du deal ». Et si on veut comprendre comment il a opéré en Corée, comment il opère en Iran ou ailleurs, il suffit de lire « L'art du deal ». C'est l'art des affaires qu'il applique au monde politique. Et ce qu'il a employé aussi sur les plateaux de télé-réalité sont des clés d'explication. Alors, Macron, on vient chez nous. Alors, je vous ai dit, il est différent, bien sûr, dans son parcours, quoique il est inspection des finances, inspecteur des finances, avec une circulation entre le monde de l'entreprise et le monde de l'État, notamment le secteur de la banque, Banque Rothschild, les think tanks, etc. Bon, vous connaissez tous l'histoire Donc je n'insiste pas là-dessus. J'insiste sur quelques points. L'hyperpersonnalisation, bien sûr. Par exemple, je vous donne un seul exemple, mais pour ceux qui n'auraient toujours pas bien vu, notamment les journalistes, quand il a fait les grands débats suite au mouvement des Gilets jaunes, tout le monde a bien vu qu'il mettait en scène son corps au centre du forum, il a enlevé la veste, etc. Donc c'est évidemment le corps du chef. L'idée de Startup Nation est l'idée claire d'État-entreprise relookée à l'heure du numérique et de la Silicon Valley. Donc c'est l'importation massive du discours du management qu'on retrouve, notamment centré sur l'efficacité, avec une autre idée qui est celle de la mobilité, qu'on retrouve dans En Marche, évidemment. Et la loi qu'il avait rendue célèbre, si je puis dire, avant d'être président, c'est ça, la loi sur la mobilité, les fameux bus Macron et autres, ce qui est aussi le grand thème de l'entreprise et du management. L'entreprise doit être mobile et agile, c'est le béaba de la vulgate managériale. Et le parti En Marche a été constitué exactement sur le même modèle que le parti Forza Italia, c'est-à-dire 65% venaient du monde des élus et des candidats et des élus, viennent du monde de l'entreprise et du monde des consultants, que ce soit des cadres sup ou des dirigeants d'entreprise ou des consultants. Alors les traits communs, les voilà, anti-post ou néo, donc ils sont hors du champ politique, ou, enfin au départ ils s'affichent comme tels. Ils s'affichent même révolutionnaires, c'est le titre du bouquin de Macron, mais c'est le titre aussi des affiches et de tous les bouquins qu'ont publié Trump et Berlusconi. Corps du chef mis en scène, césarisme, c'est-à-dire une forme d'autoritarisme pour affirmer le lien direct entre le chef et l'opinion. Ça, c'est très lié aussi à la télé-réalité ou, par exemple, à Twitter pour Trump. Un chef d'un État qui doit être réduit, alors réduit parce qu'il doit être hybridé, justement, avec l'entreprise. Avec, évidemment, un discours très pro-entreprise, pro-business, et même souvent se présentant comme self-made man. C'est le cas de Trump et de Berlusconi. Tout le vocabulaire du management et des personnages téléréels. Certains chercheurs américains ont parlé même de démocratie du talk show démocratie, ou de soap-opéra pour caractériser les formes contemporaines de la démocratie. Alors, dernière image là-dessus, parce que vous voyez que tous les trois emploient les mêmes mises en scène inaugurées par Berlusconi, c'est-à-dire je passe des contrats, je signe, je vous montre ma signature, je m'entoure de mes ministres pour signer. C'est ce que Carl Schmitt, un des grands spécialistes du politique, a appelé le décisionnisme. C'est-à-dire il faut montrer, mettre en scène que le chef décide. Le chef décide, le chef est efficace. Donc c'est sa principale caractéristique. Et évidemment, à l'heure de la télé-réalité ou de Twitter, il faut le montrer, d'où ces mises en scène que vous connaissez bien. Alors, allons dans les coulisses. Premier décor, bon, les personnages, je les fais de façon un peu anecdotique et rapide, excusez-moi, je vais aller dans les coulisses. Premier décor, donc, crise de la représentation politique. Oui, évidemment, il y a crise de la représentation politique, je dirais que c'est une ancienne et une banalité. La question, c'est qu'est-ce que la représentation politique? Ça, il y en a peu qui le traitent. Tout le monde dit qu'il y a crise de la représentation politique. Alors, et d'où ça vient? Alors, d'autant que le concept même de représentation, je vous renvoie pour les étudiants ou les enseignants, au bouquin de référence de Anna Pitkin, qui montre qu'il y a au moins 6 exceptions de la notion de représentation. Mais il y a 2 significations principales, pour aller vite, en s'appuyant sur aussi bien Chartier que Louis Marin ou d'autres. 2 significations principales. Représenter, ça a une double signification. Et justement, depuis la réforme grégorienne. Parce qu'il y a à la fois un héritage chrétien et un héritage qui vient du droit romain. C'est ça la grande novation de la révolution grégorienne du XIIe, XIIIe siècle. C'est qu'il y a un double pouvoir de la papauté et de l'empereur, avec une hiérarchie du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel, mais il y a un partage, un héritage qui vient du démos, le peuple, du droit romain, et il y a un héritage chrétien, c'est-à-dire que le Christ incarne Le Christ est homme-Dieu dans une seule personne. Donc il y a à la fois, il faut incarner, ça c'est la dimension chrétienne, si vous voulez, et ce qui est le grand mystère consacré au quatrième concile de Latran en 1215, qui est, parce qu'il a fallu des siècles hein, pour mettre au point, si je puis dire, le mystère ou le mythe, si on n'est pas croyant, de l'incarnation. Il a fallu des siècles. Kierkegaard, le philosophe, dit c'est le mystère le plus incroyable. Il dit même le plus absurde, parce que plus un mystère est complexe, et plus, évidemment, il appelle la fidesse, la foi. Alors, deux significations principales pour donc la représentation. Soit vous la voyez d'en haut, c'est-à-dire le représentant incarne une absence. Par exemple, le Dieu-roi incarne le Christ et Dieu. Personne n'a jamais vu ni la République, ni la nation, ni Dieu, ni vu rencontrer. Mais c'est objet de croyance. C'est parce que le soldat ou le résistant croit dans la patrie qu'il est prêt pour mourir pour la patrie et pour le drapeau, mais il n'a jamais rencontré la patrie ni le drapeau, ni la République, mais il est prêt à mourir pour. Donc ça veut dire que c'est une idée absente, mais qui vient s'incarner, par exemple, dans le drapeau ou dans le Christ-Roi, comme l'a analysé, et je le signale pour les étudiants en sciences politiques, j'espère qu'ils ont tous lu, Ernst Kantorowicz, parce que c'est là que se logent les fondements de la science politique, plutôt que le que sais-je de Philippe Roth sur la science politique. Donc, je vous recommande Ernst Kantorowicz, Les deux corps du roi, par exemple, ou d'autres bouquins, Mourir pour la patrie, par exemple. Bon, donc c'est présenter une absence. Et la deuxième signification de la représentation, évidemment, c'est redoubler la présentation, présenter deux fois. Donc vous avez une dimension transitive et une dimension réflexive. Et il faut toujours avoir ça en tête, parce que la crise de la représentation que nous vivons, ça c'est l'hypothèse, elle est très profonde, parce que justement c'est une crise du symbolique. C'est-à-dire que la capacité à incarner ne fonctionne plus. Il y a une dilapidation du symbolique. Donc il y a une survalorisation de la représentation réflexive. C'est-à-dire de la surincorporation, de la surreprésentation, d'où la mise en scène du corps du chef, sans fin, sur les écrans, du matin au soir. Donc on répète le même, parce qu'il y a dilapidation du symbolique. Je vous le fais comprendre tout de suite. Par exemple, Macron a dit tout de suite « je veux incarner Jupiter, machin truc ». Sauf que ça ne peut plus marcher. Donc il peut le répéter, ça ne marche plus, parce qu'il y a dilapidation du symbolique. Donc il est condamné à répéter des signes. Il dit « je suis Bonaparte, à la pyramide du Louvre, machin bon. ». Mais tout ça, ça ne marche plus. De Gaulle, oui, ça marchait. Mitterrand encore un peu, ça ne marche plus, parce que le symbolique dans la représentation politique est dilapidé. Et c'est ça la profondeur de cette crise par rapport à d'autres crises. Donc, on peut parler de représentation fenêtre et miroir. Il y a dilapidation du symbolique. Donc, les deux sens, si vous voulez, qui font les deux significations de la notion de représentation s'écrasent sur un seul, si vous voulez, sur sa base, c'est-à-dire sur l'image, sur le fait de se présenter, se représenter sous la forme en particulier télé-réelle. Voilà comment Louis Marin spécifie bien ces deux définitions de la représentation. Si vous comprenez bien ça, vous pouvez la suite se déroule aisément. Première signification, c'est opérer une substitution. Mettons, le pape représente Christ et Dieu. Où le Christ-Roi représente, où le président de la République représente la République, etc. Ça, c'est le côté incarnation. Et c'est celui qui se dissout, qui se dilapide. Et puis l'autre, c'est intensifier une présence. D'où l'importance des médias, là, et des mises en scène médiatiques, que ce soit les réseaux sociaux ou la télévision ou autre, donc de répéter sans fin. C'est-à-dire, on est à l'heure du selfie, si vous voulez. C'est l'heure du selfie. Alors, donc, sans arrêt, je suis dans le selfie de moi-même. Alors j'attrape, hop, selfie avec Trump, hop, selfie avec Macron, etc., etc. Et je fais la mise en scène du selfie, en plus, devant les écrans. Et je tweet, etc., l'image du selfie, c'est sans fin, vous voyez, répétition. C'est ça la crise profonde de cette représentation. Alors, pourquoi elle est fondamentale? Parce que sa source est dans le moment fondateur. Et là, je cite Gadamer dans « Vérité et méthode ». C'est-à-dire au moment où se sont rencontrés l'apport de la vision gréco-romaine et l'apport chrétien de l'incarnation, qui ont donné cette signification au mot « représentation ». Alors, je vais vous le montrer sur un schéma que j'ai fait. On peut distinguer la représentation symbolique, verticalement, ici, c'est-à-dire celle qui présente une absence et qui est incarnée, et puis celle de la représentation que, par la base, si vous voulez, par en bas, qui serait, qu'on pourrait qualifier avec d'autres auteurs, de juridico-politique, c'est-à-dire celle de l'élection. Je vous donne un exemple. Un député, idéalement, il est à la fois l'élu de sa circonscription, du territoire, donc c'est le côté incorporation, le côté représentation juridico-politique, mais en même temps, il représente la nation dans son ensemble. Donc il est censé incarner la nation, parce que vous ne rencontrerez jamais la nation, soit pas, vous pouvez la rencontrer par les députés, par le drapeau, par le président, etc. Donc vous avez deux éléments constitutifs de la représentation, et aujourd'hui, il y a un hiatus entre les deux, parce que la dimension représentation symbolique s'efface ou se dilapide. Elle ne disparaît pas, mais elle se dilapide. Et c'est ce qui permet l'hybridation entre État et entreprise, parce que l'État, se dilapidant, comme le politique, sa capacité symbolique, je vais essayer d'expliquer ça, va colmater les brèches en allant chercher dans l'entreprise, dans le management, chercher des moyens de colmater les éléments de cette dilapidation du symbolique à la fois du politique et de l'État. On pourrait représenter autrement, hein, c'est la même chose, l'idée de représentation au sens de la Renaissance, hein, de Brunelleschi, etc. C'est un dispositif ternaire, hein, avec un point de vue et un point de fuite. Le représentant, il est à la fois expression des représentés, juridico-politique, et représentant, incarnant une référence, par exemple, la nation pour le député. Donc, crise de la représentation politique, oui, mais bien plus profonde que les précédentes, parce qu'il y a déjà eu de multiples crises de la représentation politique. Par exemple, Didier Mineur, très bon texte, ou Bernard Manin, je vous donnerai les références à la fin, a identifié, par exemple, Didier Mineur, déjà quatre crises pour ce qui concerne l'Europe et la France en particulier, et chaque fois, on a trouvé des solutions. Par exemple, on a trouvé la démocratie des partis pour répondre aux crises précédentes ou des réponses institutionnelles avec la Ve République, par exemple, dans les années 60. Alors, Manin identifie aussi ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire cet écrasement, mais il identifie pas comme moi. Lui, il dit démocratie du public, démocratie du soap opera, démocratie bon. L'hypothèse que je vous soumets, c'est que la crise, donc, est beaucoup plus profonde, puisque dans cette dilapidation, il y a non seulement un affaiblissement de la dimension incarnation, mais en même temps, il y a obligation de multiplier les signes, c'est-à-dire, à la place du symbolique, de faire une prolifération presque virale des fictions, des images, des mises en scène pour colmater cette dilapidation. Donc, vous voyez, on pourrait le mettre en image. On est dans la mise en abîme de cette représentation, de la représentation fenêtre, celle que Magritte représente très bien, c'est-à-dire il y a le vide, parce que l'incarnation, c'est ça, c'est il y a le vide derrière. Dans le symbolique, c'est la mise en scène du vide. Par exemple, la nation, je ne sais pas ce que c'est, mais je l'incarne par un messager que j'appelle le député. Donc, si j'étais Magritte, là, le vide, ce serait la nation, et puis les fenêtres avec le ciel, ce serait le député qui rend possible l'occupation de ce vide, comme le siège, le gendre, insiste beaucoup, le siège papal au Vatican marque une place vide. Et le pape vient s'asseoir sur ce siège pour dire « j'occupe la place vide, c'est la place du Christ, etc. » Donc, cette représentation fenêtre, cette représentation de l'incarnation, se dilapide, dimension symbolique, alors que la représentation miroir explose. C'est la mise en scène, la répétition de la représentation, la mise en abîme de son image, comme dans un miroir sans fin. Donc, deuxième décor. Comment comprendre maintenant, deuxième coulisse, si vous voulez, allons plus loin, dans cette coupure de la représentation, je vous propose de voir comment l'État, qui est le support, si je puis dire, institutionnel du politique, opère essaye de colmater cette dilapidation du symbolique en allant s'hybrider, comme il l'a fait à d'autres époques dans l'histoire, avec une autre institution. Alors, dans l'histoire, il l'a fait, justement, après la réforme grégorienne, il l'a fait avec l'Église. L'État est né de l'Église. Et l'État est né comme État-Église, ou Église-État. Et aujourd'hui, comme l'État-nation, tel qu'on a pu le connaître à son apogée, est en crise, pour les raisons que je viens d'évoquer, il va s'hybrider avec l'institution qui monte, si je puis dire, à l'échelle historique, qui est la grande entreprise. Depuis le XIXe siècle, c'est l'institution qui a émergé à la fin du XIXe et qui se développe fortement depuis. Alors, juste un mot sur la définition de l'institution. Ça, c'est mon côté prof. Hein. Je définis mes concepts, mais je pense que c'est toujours utile parce que sinon, la nuit, tous les chats sont gris, comme disait Hegel. Et c'est ce qui permet de débattre sans fin, parce que personne ne sait de quoi on parle. Donc c'est d'autant plus facile de parler à perte de vue, sans avoir défini les concepts qu'on utilise. Alors l'institution, on peut prendre une image architecturale, c'est ce qui fait tenir une société. Instituer, c'est littéralement donner de la solidité aux croyances collectives, aux mythes collectifs qu'une société se donne pour ne pas rester un troupeau de moutons. La définition que connaissent bien les juristes, c'est celle de Maurice Henriot, qui a été un de nos grands juristes de l'école du service public et de l'institution. Vous voyez, une institution est une idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social. Donc, une institution, c'est la connexion entre une croyance collective, et donc elle l'a fait tenir, et un dispositif normatif, juridique ou managérial, en tout cas un dispositif normatif qui permet de régler les comportements dans la collectivité qui partagent une vision. Je peux vous en donner une image de l'institution en m'appuyant sur ce qu'en dit Platon dans le Phédon et ce qu'en dit Pierre Legendre dans toute son œuvre, c'est-à-dire... Platon utilise l'image de la colle. Il dit l'institution, comme le politique d'ailleurs, colle, c'est de la colle, entre un clou, c'est une image aussi de Platon. Le clou, c'est quoi? C'est le mythe collectif ou le mystère collectif qui réunit la société. Par exemple, à l'époque où tout le monde est dans une vision chrétienne, mettons, plaçons-nous au XIVe ou au XVe siècle, en Europe... Eh bien, le clou, c'est la croyance collective en Dieu et notamment dans le mystère de l'incarnation, si je suis dans cette communauté. Aujourd'hui, peut-être que le clou, c'est ce qu'on appelle, mais ça ne veut pas dire grand-chose, les valeurs de la République. Alors, le clou, c'est le référent. C'est-à-dire, si j'enlève le clou, je vous le dis autrement, si j'arrache le clou, tout tombe. Les institutions s'effondrent. Si on ne croit plus dans la nation, si on ne croit plus dans je ne sais pas quoi, hop, tout s'effondre. Donc, le clou, il répond à une question fondamentale qui est pourquoi vivre et pourquoi mourir. Ce n'est pas une mince affaire. C'est ça que traite le symbolique. C'est pour ça que la crise est profonde. C'est ce qui fait sens. C'est ce qui donne sens à la collectivité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde est en quête de sens. On est d'autant plus en quête de sens qu'il y a une puissance de la technoscience qui est immense. Et donc, il y a un écart croissant entre la puissance et le sens. Mais ce n'est pas cet aspect que je vais développer, mais il y a... À partir du moment où il y a dilapidation du symbolique, il y a donc perte de sens, perte de repère, perte de référence. Et c'est bien ce qui fait problème pour l'État et pour le politique. Donc l'institution, c'est ce qui colle le clou, et la loi. Ce à quoi on croit, pourquoi vivre et mourir, et comment vivre et mourir, c'est ce que dit la loi, la norme. Ce sont deux questions que résumait un père de l'Église qui s'appelait Isidore de Séville au 7e siècle. Il disait... Tout être humain ne se pose que deux questions. Pourquoi vivre et mourir? C'est la question du symbolique, le sens. Et comment vivre et mourir? Donc c'est la question des normes comportementales dans une collectivité traitée ensuite par l'apport du droit romain. Alors j'ajoute à ma généalogie juste cette indication. Alors toujours pour les étudiants en Sciences Po, il faut lire Hans Ernst Kantorowicz. Et puis, il faut le lire, je suis sûr que vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, il y en a qui les connaissent, et il faut lire Harold Berman. Vous connaissez un des deux ? ou les deux. Bon, alors allez-y à fond, et puis vous allez être très bon après en Sciences Po, parce que le reste, c'est du pipi de chat. Alors, Harold Berman, vous avez la référence. En plus, ça a été traduit en... Parce que c'est Law and Revolution, mais vous parlez tous anglais maintenant. Ça a été publié en français, Droit et Révolution. Alors, Harold Berman, d'ailleurs, qui est très lié à l'approche de Kantorowicz, dit que l'Occident s'est constitué à partir de 6 révolutions. Je vous les laisse lire. Et celle qui insuffle, dit-il, le Big Bang à l'Occident, à l'Europe en particulier, puis l'Occident, j'entends, mettons, le nord de la planète, c'est la réforme grégorienne. Donc je vous l'ai dit, c'était cette grande réforme à la fin du 11e siècle et au début du 12e siècle, entre 1075 et 1215, le Concile de Latran, qui organise la hiérarchie des pouvoirs entre pouvoir spirituel du pape et pouvoir temporel de l'empereur. Celle-ci va insuffler, et pour les raisons, si vous avez suivi, parce qu'elle articule les deux, pourquoi vivre et mourir, et comment vivre et mourir, pouvoir spirituel, pouvoir temporel. La deuxième, c'est la réforme allemande, bien sûr, la réformation, la révolution anglaise. Et vous allez voir qu'à chaque fois, à chaque étape de ces révolutions, la question de l'État va être remaniée, mais profondément, les révolutions américaines et françaises et la révolution russe. Alors, la première révolution grégorienne, entre 1075 et début du XIIIe, donc il faut aller de la fin du XIe, mais la période charnière, c'est le XIIe siècle. C'est l'époque des grandes cathédrales, d'ailleurs. Sont issus de cette grande révolution deux produits dérivés, institutionnels. L'institution de l'époque, c'est l'Église. Et deux produits dérivés, je prends la formule chez Legendre, l'État et l'entreprise. Et c'est très documenté par les historiens. L'État né au XIIe siècle, l'entreprise, y compris la société par action, apparaît dès le XIIe siècle, aussi bien en Italie qu'en France, par exemple, au Moulin du Bazac, à Toulouse. Donc, deux produits dérivés institutionnels. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? L'État, je vous résume ma généalogie, l'État va mener un combat de première ligne contre l'Église, pour conquérir son autonomie, puisque l'État naît comme État-Église, sous la tutelle de l'Église et du pape. Donc, l'État va mener un long combat qu'il va gagner, essentiellement à partir du XVIe et notamment du XVIIe siècle, contre l'Église, c'est antithéologique, je pourrais dire, mais pour conquérir son autonomie, c'est-à-dire devenir État-nation, et plus État-souverain, et plus État-Église. L'entreprise ne fait pas ce combat de première ligne, si je puis dire. Elle va se développer à l'abri de ce combat de première ligne. Elle est à l'arrière-garde, si vous voulez. Mais elle va bénéficier de ce combat de première ligne pour intervenir avec l'industrialisation, c'est-à-dire au XIXe siècle, à partir du moment où l'État commence à être profondément critiqué. Et l'entreprise va, elle, développer sa puissance, et d'autant plus fortement que l'État s'est épuisé, si je puis dire, dans son combat contre la symbolique de l'Église pour conquérir son autonomie. Et c'est très lié aux révolutions qu'a indiqué Berman. Machiavel, 1513-1516, le prince, c'est contemporain de la Réformation, 1517, et de la découverte de l'Amérique, et de la découverte, pas de l'Amérique, du Tour de Magellan, en 1519. Mais juste après la découverte de l'Amérique en 1482. Alors, Machiavel qui introduit le mot « État » avec un grand « E ». Avant, « État », ça voulait dire la situation, l'état de quelque chose. L'État autonome, l'État souverain, c'est Machiavel qui l'introduit en 1513. Et puis c'est théorisé, alors là, c'est les standards de tous les cours, par Bodin et compagnie. Et le triomphe, c'est Hobbes. Hobbes, évidemment, là, il faut le lire, le Léviathan. Non, mais c'est bien de lire aussi Bodin et Machiavel. Hein. Mais le Léviathan, parce que le Léviathan, c'est le point juste après la Révolution anglaise, justement. La Révolution anglaise, c'est 49-52. Donc, Hobbes écrit son Léviathan en pleine révolution anglaise. C'est la première révolution qui zigouille le roi. Ce n'est pas la nôtre, hein, c'est la première, c'est la révolution anglaise, Charles Ier. Alors, les humains en multitude forment une seule personne. C'est exactement le thème de l'incarnation. Hein. C'est une seule personne, homme et Dieu. Alors ici, une seule personne, c'est l'État. L'État souverain, l'État absolutiste, etc. Et c'est le représentant qui est le support de la personne et qui n'est le support que d'une seule personne. L'unité dans une multitude ne peut s'entendre d'une autre manière. Donc il reprend vraiment les fondements de la révolution grégorienne pour célébrer, si vous voulez, l'État absolutiste et souverain. Je vous laisse découvrir. Et vous voyez d'ailleurs que dans le dessin qui est sur la couverture du Léviathan, on a bien dans les deux colonnes ici la représentation, évidemment, des pouvoirs temporels et spirituels. Donc il est bien en filiation avec la réforme grégorienne. Et dans le corps du Léviathan, vous voyez, il y a la multitude qui est représentée. Il y a les petites têtes qui constituent le corps de l'État, avec évidemment le sabre et le goupillon, si je puis dire. C'est l'art qui crée ce grand Léviathan qu'on appelle République. Donc là, on est à l'apogée théorique de l'État autonome. On peut dire qu'à partir de Hobbes, mais c'était déjà là en partie chez Machiavel et Bodin, l'État est devenu État autonome, souverain, nation, dissocié largement de la référence à l'État-Église. Mais un siècle après, donc là on est dans les autres révolutions de Bermann, c'est la révolution américaine et française, et on peut dire peut-être la révolution industrielle en Grande-Bretagne, à partir de 1750 commence, c'est pas le néolibéralisme, l'école de Chicago, Thatcher et Reagan, c'est vraiment ne rien comprendre à l'histoire. Ce sont des épigones d'un mouvement qui a démarré il y a deux siècles et demi, et Michel Foucault le développe fortement dans ses cours au Collège de France, et il a raison, la phobie d'État, c'est une formule de Foucault, la phobie d'État a démarré, si je puis dire, dès 1750. C'est la critique, justement, de l'État absolutiste, de l'État monarchiste, de l'État hyper-souverain, à la limite, ayant tellement conquis sa puissance, que naissent à la fois, au nom de ce qui va être les droits de l'homme, enfin du droit individuel, mais au nom des libéralismes, de l'émergence de l'économie politique et du marché, que l'État va être critiqué. Et alors, si je puis dire, à partir du 19e siècle, au début du 19e, alors là, je dirais, tout le monde s'y met. Tous les courants, toutes les idéologies, si vous voulez, tous les courants philosophiques rentrent dans la critique de l'État. Même Thomas Paine, qui est, comme vous savez, un des inspirateurs de la Révolution américaine, le gouvernement est un mal nécessaire, ça veut dire qu'il faut s'en méfier. William Godwin, qui est le véritable père de l'anarchisme, reprend ça. Saint-Simon, alors Saint-Simon au nom de l'industrie, de l'entreprise. Sieyès introduit pour affaiblir l'État la distinction entre gouvernement et administration. Comme il est un abbé, il a compris la division du pouvoir temporel et spirituel. Donc il a réinsuffle à l'intérieur de l'État. C'est très puissant, Sieyès. Bon, je n'ai pas le temps de le développer s'il y a des questions. Tous les socialistes, tous les socialismes, tous les anarchismes, quelles que soient leurs variantes, ont en ligne d'horizon, en point de fuite, l'extinction, voire la disparition de l'État, dans le marxisme, dans le léninisme, chez Proudhon, etc. Tous les libéralismes, donc c'est Thatcher, vous savez, son bouquin de chevet, c'était Herbert Spencer. Lisez L'individu et l'État de Spencer, et vous comprendrez Thatcher et Reagan 100 ans après. C'est à Thatcher, elle venait au Parlement, elle posait L'individu et l'État sur sa table. Donc un État minimal. Alors, celui qui introduit l'idée d'État-entreprise, il n'est pas le seul à l'époque. Mais centralement, regardez le bas des citations, c'est Henri Saint-Simon qui, dans ce courant de critique de l'État et de critique du gouvernement et du politique, le politique, en gros, ça ne sert à pas grand-chose. Ce qui est premier, c'est l'industrie. Donc la capacité administrative est la première capacité en politique. Et finalement, une nation n'est qu'un grand atelier. C'est l'idée qui va traverser, y compris chez Marx, dans le livre 1 du Capital et ailleurs, qui va traverser tous les socialismes au XIXe et au XXe siècle, c'est que, lui le résume, la politique, c'est la science de la production. Donc on voit bien que là, l'État critiqué commence à s'orienter et à regarder. Alors là, on est au tout début de la révolution industrielle, hein, on est vers 1820. Donc l'État, si je puis dire, et le politique commence à regarder. Et Auguste Comte, qui est le secrétaire et la plume de Saint-Simon, va apporter ça à son apogée avec les corps techniques. Je viens plus près de nous avec Ulrich Beck, qui analyse le politique aujourd'hui. Et voilà ce qu'il dit, la constellation politique des sociétés industrielles est devenue apolitique, voire antipolitique chez les personnages dont je vous ai parlé. Tandis que ce qui était apolitique dans l'industrialisme est devenu politique. C'est-à-dire ce qui était non politique dans le monde de l'industrie et des affaires devient politique et inversement, l'entreprise, ça veut dire ça, envahit de plus en plus le champ du politique. Parce que quand je parle d'État-entreprise, ça veut dire d'un côté crise de symbolique du politique au profit de l'hybridation avec l'entreprise, mais ça veut dire investissement majeur de l'entreprise dans le monde politique. À tel point que beaucoup de chercheurs disent que l'entreprise, aujourd'hui, est une institution politique. La RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise ou environnementale, ce ne sont que des cailloux sur un chemin beaucoup plus important que ça. D'ailleurs, à bon entendeur salut, c'est-à-dire que les politiques devraient s'intéresser, les politiques au sens classique, devraient vraiment s'intéresser à l'entreprise pour faire de la politique et arrêter de s'intéresser uniquement aux élections locales, je ne sais pas quoi, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais enfin, ce n'est que la moitié du verre, si je puis dire. Alors, l'institution qui se développe comme institution politique nouvelle, c'est l'entreprise, et notamment la grande firme managériale, telle qu'elle a été définie par Chandler. Alors, voilà, l'État se dépolitise parce qu'il se désymbolise, et donc, en se désymbolisant, il s'aplatit sur ses fonctions gestionnaires. C'est ce que beaucoup de philosophes ou autres ont insisté. Par exemple, je vous cite Eric Weil dans Philosophie politique. L'État organe devient organe de la rationalité technique. On le voit bien chez Macron ou d'autres. Donc on a des super gestionnaires avec des tableaux Excel à Bercy, partout, ils ont des chiffres dans tous les sens. Vous n'avez pas le temps de dire... C'est la gouvernance par les nombres, comme dit Alain Supiot. Gouvernance par les nombres. Donc, ça se généralise, c'est l'expression même de la dilapidation du symbolique. L'État se dépolitise, il perd son sens, si vous voulez. Il s'aplatit. Réciproquement, l'entreprise se politise par extension de sa sphère d'intervention, non seulement dans la société, mais au-delà même dans l'obligation d'agir dans son rapport à l'environnement. Donc, on a l'État-entreprise qui sera la combinaison des deux, est un État à la fois rationalisé, empruntant au management, et une entreprise, et sa combinaison avec une entreprise se politisant. On peut même aller à l'hypothèse que je vous soumets, c'est-à-dire de parler d'un transfert d'hégémonie, hégémonie au sens de production intellectuelle et symbolique de l'institution. Ça veut dire que l'État produit de moins en moins d'idées, si je le dis brutalement, de puissance intellectuelle et symbolique, et l'entreprise prend le relais, la grande entreprise, pour le faire. Ce n'est pas que l'import-export du management. C'est beaucoup plus puissant que ça. Donc, alors beaucoup d'observateurs ou de politistes le soulignent. Hein, par exemple, Simone Goyer-Fabre, qu'on peut lire, bonne professeure de Sciences Po ou philosophie politique, elle insiste aussi beaucoup sur la dépolitisation du politique. Alors le lointain, et je vais finir là-dessus, le lointain, comme on dit au théâtre, c'est que au-delà donc de cette hybridation des institutions, au-delà de cette crise par dissociation des deux composantes de la représentation, se joue un affrontement entre deux visions du monde à l'intérieur même de la vision du monde occidental. L'entreprise a pu, comme j'ai essayé de vous l'indiquer, à partir du XIIIe siècle, à l'abri du combat de première ligne qu'a mené l'État pour conquérir son autonomie vis-à-vis de l'Église a pu, en coulisses, développer sa propre conception du monde, que beaucoup d'auteurs, et j'en ai fait moi un bouquin aussi, appelons la religion industrielle. C'est-à-dire, c'est une vision du monde qui est liée à l'industrialisation, mais l'industrialisation entendue depuis le XIIIe siècle, pas simplement depuis le XIXe, et qui est en fait porteuse d'une vision du monde dont je vais vous donner les composantes immédiatement. Ce qui veut dire pour moi que, contrairement à Weber, il n'y a pas sécularisation de l'Occident, mais il y a désécularisation. C'est-à-dire que l'Occident a une religion. C'est sa religion politique et étatique qui a été sécularisée, et là-dessus Weber a raison. Mais en fait, il y a une religion souterraine, très puissante, qui s'est construite à bas bruit, dans les coulisses, et qui est sa religion industrielle. Et les autres cultures et les autres civilisations le voient très bien. Quand, depuis l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, on regarde l'Occident, qu'est-ce qu'on dit ? Puissance techno-scientifique industrielle. C'est ça. Bon, plus la Déclaration des droits de l'homme, plus Guthrie. Alors, les composantes et le fond de cette religion industrielle, je ne fais que le formuler, j'ai fait un bouquin de 800 pages, ça vous intéresse, ça s'appelle « La religion industrielle », mais vous les retrouverez facilement, c'est que nous sommes, l'Occident, en révolution industrielle permanente, aujourd'hui elle s'appelle numérique, biotechnologie, big data, intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, je peux rentrer dans le détail si ça vous intéresse, mais c'est un grand récit qui dit que nous sommes en permanence en révolution. Au nom de l'innovation, de l'industrie, de la technoscience. Hein, biotechnologie aujourd'hui, tout le monde s'affole sur les biotechnologies, transhumanisme. Alors, ça va avec deux variantes. Une variante utopique, on va tout solutionner, mais une variante dystopique, c'est à l'inverse. Le collapse, on est en plein dedans. L'apocalypse. Collapse et apocalypse. Donc c'est ça, c'est le thème de la révolution industrielle permanente, si vous voulez, technoscientifique. Le deuxième élément, c'est que le grand acteur de l'histoire, c'est l'humanité avec un grand H. C'est une invention du XVIIIe siècle, ça. Hein, un grand être, comme dit Auguste Comte, et comme disait la Révolution. La troisième composante, c'est la valeur travail. C'est très important, mais la valeur travail avec un grand T, comme concept, c'est Adam Smith qui l'a introduite, donc à la fin du XVIIIe. Je vous renvoie aux ouvrages de Dominique Méda. La science comme rationalité, c'est-à-dire la vérité, ce n'est plus livrée par les religions, la vérité est livrée par les sciences ou la science. Et puis deux grands mythes complémentaires qui mettent en dynamique l'ensemble, c'est l'histoire avec un grand H. Jusqu'au XVIIIe, il n'y avait que des histoires d'eux avec un petit H. Là, c'est la grande histoire. Et puis, évidemment, le grand mythe qui commence à vaciller, le mythe du progrès, qui a été introduit par Francis Bacon au XVIIe siècle. Alors, cette religion industrielle, elle s'est construite à bas bruit par l'institution d'entreprise et ses théoriciens ou ses philosophes, et puis pas n'importe lesquels. Hein. Ces philosophes, ils ne s'appellent pas simplement Saint-Simon et Auguste Comte. Ils s'appellent Francis Bacon, par exemple, ou toutes les Lumières écossaises. Les Lumières écossaises, c'est Adam Smith, David Hume, Hutchinson, Ferguson, enfin, c'est des monstres, si je puis dire, en polémique d'ailleurs avec les Lumières françaises, en particulier avec Rousseau, qui a combattu seul contre ces Lumières écossaises et qui a perdu, mais c'est lui qui avait tout vu venir. Bon. Alors, se sont ajoutés, si je puis dire, et je vais clore ma généalogie ici, se sont ajoutés sur cette religion industrielle qui a une histoire longue, depuis donc le XIIIe siècle, une réaction extrêmement puissante qui est née avec l'informatique et la cybernétique après-guerre. Et une deuxième mutation du management que j'appelle donc cyber-managériale. Révolution managériale, dit James Burnham dans un best-seller qui est publié pendant la guerre. Burnham, c'est un ancien trotskiste, bras droit de Trotsky, qui va devenir conseiller de la CIA, prof à New York, enfin, parcours assez invraisemblable. Et au moment de l'invention de l'informatique, apparaît une vision du monde, une philosophie qui s'appelle la cybernétique, qui a été très prégnante et qui est toujours prégnante, qui est une doctrine de l'efficacité par la machine et par l'ordinateur en particulier. Je vous en donne sa philosophie de fond. c'est que après deux guerres mondiales et toutes les barbaries qu'elles ont générées, le constat des cybernéticiens et de ces théoriciens du management est de dire « Mais puisque les décideurs politiques ont foiré, on ne pouvait pas faire pire que ce qu'ils ont fait avec la première et la deuxième guerre mondiale. Ben, il est temps de donner le pouvoir aux machines. Il est temps de donner le pouvoir aux algorithmes. Ce que nous avons commencé à faire dans les milieux financiers depuis longtemps. Et maintenant, ça s'étend à l'État, d'ailleurs. Partout, on est en train de... Donc on est en train de réaliser, et on est en plein dedans, le rêve de la cybernétique. La décision est humaine étant faillible, ayant abouti aux plus grandes catastrophes possibles, donc transférons le pouvoir, faisons un pouvoir automate, un pouvoir algorithmique, comme disent les chercheurs contemporains, pour en parler. Donc, pouvoir algorithmique, vous voyez, c'est la technologisation, à la numérisation, on dirait aujourd'hui, la technologisation du politique qui accompagne sa dilapidation du symbolique. Donc l'État-entreprise, c'est un État qui dilapide le symbolique, l'incarnation, si vous voulez, et qui survalorise la technologisation et le management. Et je pense qu'en France, on est à l'apogée en ce moment de cette double tendance. Alors, je peux résumer toute mon histoire dans ce petit schéma. À partir de la Révolution grégorienne, l'État-Église, ou Église-État selon les historiens, je vous passe les détails, l'État-nation avec Machiavel jusqu'à Hobbes, notamment, et à partir du milieu du XVIIIe, la phobie de l'État qui va se développer, qui va prendre différentes formes, et une des plus intéressantes, la dissociation entre gouvernement et administration, donnant finalement le pouvoir à l'administration par rapport au gouvernement. Conclusion, je suis audacieux, je vous fais 5 schémas, tout simple, avec des traits de... J'aurais pu faire des traits de craie sur le sol, comme font les enfants, pour vous résumer les 5 visions du politique en Occident depuis l'Antiquité. Alors, dans l'Antiquité, on n'a pas la verticalité institutionnelle. On peut désigner, tirer au sort les magistrats qui vont gérer la cité. Donc, ce qui est premier... C'est la société civile, c'est la cité, c'est la communauté, c'est le démos, si vous voulez. La révolution grégorienne, c'est le point 2, introduit la verticalité sous la forme de l'Église-État. Et ce dont je vous ai parlé, c'est l'évolution de cette verticalité, ces institutions qui font tenir la communauté. Devenu donc État-nation, État souverain, à partir du XVIe, puis État limité à partir du milieu du XVIIIe et de ce qu'on appelle les Lumières, État limité, phobie d'État, faisant apparaître un double dans la communauté, le marché, comme le montre bien Karl Polanyi, livre à lire, troisième livre à lire, Kantorowicz, Berman, Polanyi, l'invention du marché. Et puis, aujourd'hui, donc, dualité de l'État-entreprise et dualité du marché et de la société civile. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez durable. On entre dans une période institutionnelle. Alors, à la fin de mon bouquin, j'ai dit, est-ce que la corporation, c'est à la corporate, l'entreprise, la grande entreprise. Mais la science-fiction est déjà là, finira par gagner et s'imposer. La science-fiction en est là. La science-fiction, dès que vous voyez un blockbuster futuriste, tout est technologisé, d'accord ? Mais surtout, les entreprises se passent des États. Les États-nations ont disparu, il y a des polices privées, tout est, etc. Tout est géré, le monde entier est géré par la grande firme. Bon, ça, c'est la science-fiction. Mais la science-fiction est très intéressante, parce que souvent, il y a beaucoup d'intuitions, ou en tout cas, de mise en scène de tendances lourdes, ou de signaux faibles, à travers... Alors, vous voyez, vous pouvez encore résumer ce panorama institutionnel de l'Occident, avec nos 3 institutions, l'Église... Donc, sa vision du monde, évidemment, c'est la religion chrétienne. Je passe sur les églises au pluriel. Et son droit est le droit canon. L'État, sa vision, c'est ce que Voegelin a appelé les religions politiques. Et son inspiration, c'est le droit romain. Et puis l'entreprise, c'est la religion industrielle dont je vous ai parlé. Et c'est le droit des corporations, je n'ai pas le temps de développer, qui a été fortement constitué... notamment au Moyen Âge, et exhumé par l'Allemagne au XIXe siècle par ses plus grands juristes, notamment Karl von Savigny. Bon, voilà un panorama résumé. J'ai l'audace de faire ces synthèses. Et donc, je vous passe la parole et je vous remercie de votre attention.